Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Présence où j'ai le grand honneur de m'entretenir aujourd'hui avec Nikolaï Louganski. Il donne un récital ce mercredi 20 août à 21h à la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. C'est sa deuxième programmation festival, la première ayant eu lieu en 2023 dans cette même basilique. Cette année, le grand pianiste russe propose un programme d'œuvres de Beethoven, Schumann, Liszt et des transcriptions de scènes d'opéra de Richard Wagner sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Bonjour Nikolaï Louganski et tout d'abord merci infiniment d'avoir accepté cette interview.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Je disais que c'est votre deuxième participation au Festival de Rocamadour à l'occasion de cette 20e édition et je me demandais ce que vous aviez ressenti en découvrant la cité il y a 2 ans. Vous qui aviez joué dans le monde entier, est-ce que vous avez été impressionné lorsque vous avez découvert le site de Rocamadour et la basilique en 2023?
C'est inoubliable, c'est le lieu unique, et je pense influencer beaucoup de gens, beaucoup de rois, des compositeurs, je pense chaque fois personne vient et découvre quelque chose de nouveau. Je savais rien avant, je suis venu il y a 2 ans et c'était grande impression pour moi, je suis très heureux de venir encore.
Qu'est-ce que vous aviez pensé de l'acoustique de la basilique lorsque vous avez joué?
L'acoustique dans chaque église est typique, c'est beaucoup, beaucoup d'acoustique, beaucoup de réverbérance. La public doit être très attentif, mais généralement, c'est cette acoustique, je préfère que l'acoustique des théâtres où sont très secs et très clairs.
Oui, l'acoustique est très très belle à la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Je voudrais revenir sur votre formation musicale en Russie. Comme beaucoup de grands pianistes, vous avez commencé le piano très tôt, à l'âge de 5 ans. Vous êtes entré à l'école centrale de musique de Moscou à 7 ans et vous avez reçu l'enseignement de grands maîtres, notamment celui de deux femmes qui s'appelaient toutes les deux Tatiana, Tatiana Kestner et surtout Tatiana Nikolaïeva. Ce sont vraiment les deux professeurs qui ont compté le plus pour vous.
Tatiana Kestner était professeure dans l'école centrale musicale à Moscou depuis, je pense, 1933. Toujours, elle était professeure pour les jeunes, pour les élèves de 7 ans à 18 ans. Et parmi des élèves, c'était Nikolai Petrov, Andrei Gavrilov, beaucoup de pianistes. Elle était ensemble avec l'école musicale centrale qui était fondée, je pense, en 1933. C'est une grande histoire d'éducation musicale au Soviet-Union. Et après sa mort, j'étais élève de Tatiana Nikolaïeva. Tous les deux, Tatiana, étaient élèves d'Alexander Goldenweiser qui était un des fondeurs de l'école centrale musicale et qui était un des plus vieux professeurs de conservatoire qui pas quitté la Russie mais resté après la révolution. Et après la mort de Tatiana Nikolaïeva, qui était vraiment très fameux, très grand pianiste, aussi jouait beaucoup dans le monde, en France. Et puis, j'ai fini conservatoire chez Sergei Dorensky, qui était un petit peu plus jeune, mais la même école. Il était l'élève de Goldenweiser, Grigory Ginsburg, et Dorensky était professeur de Bounin, de Matsuev, de Rudenko, beaucoup des élèves. J'ai profité de toutes les grandes choses de l'école musicale de l'Union soviétique.
L'école russe du piano produit depuis toujours de très grands pianistes. Comment vous l'expliquez? Quels sont les principes de l'enseignement russe pour cet instrument? Qu'est-ce qu'il a de spécifique?
Spécifique est seulement professionnalisme et éducation pour les enfants. Parce qu'il y a tellement beaucoup de professeurs différents. Et l'école russe, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg, Minsk, Kiev, Novosibirsk, Tashkent, toutes les villes sont écoles russes, mais tous les professeurs sont différents. La même chose, c'est seulement que vous avez toute possibilité d'avoir éducation professionnelle depuis vous avez 7 ans. Et puis, c'est à peu près comme, si je demande quel est le signe de l'école européenne, on ne peut pas dire parce qu'il y a beaucoup de professeurs différents. Aussi, Moscou, Kiev, Tachkent, Novosibirsk, c'est l'école différente et plutôt les professeurs, les pianistes sont très différents.
Vous enseignez vous-même le piano depuis plus de 25 ans au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre en priorité à vos élèves?
Je ne peux pas dire que j'enseigne, c'est un petit peu symbolique. C'est comme parfois je donne un petit masterclass parce que ma vie et les concerts, je suis pas beaucoup en Moscou. Et jamais, jamais j'ai eu mes élèves. J'étais assistant de professeur Dorensky, maintenant je suis assistant de professeur Pisarev. C'est un petit peu comme hobby.
C'est plutôt une activité annexe pour vous. Votre activité principale, c'est de donner des concerts et de donner des concerts toute l'année, un peu partout dans le monde.
Oui, c'est comme je ne voulais pas complètement quitter le conservatoire, mais je ne peux pas dire que j'enseigne. J'aide parfois les pianistes. Je peux partager mon avis, pas plus.
Quels sont les conseils que vous leur donnez? En principe, vous donnez des conseils en fonction de l'élève, de ce dont il a besoin, ou vous tenez à transmettre certains principes qui sont, selon vous, nécessaires pour devenir un grand musicien, un grand pianiste.
Je ne crois pas qu'il y a les conseils généraux, les principes. Non, si vous allez me jouer quelque chose, je vais dire quelque chose de qu'est-ce que vous avez joué, mais pas les conseils généraux.
Nous allons vous écouter maintenant dans une interprétation d'une des pièces que vous allez jouer à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour ce mercredi 20 août. Il s'agit de la sonate numéro 17, La Tempête de Beethoven, dont vous jouez ici le troisième mouvement, Allegretto.
Thank you.
Le troisième mouvement Allegretto de la sonate numéro 17, La Tempête de Beethoven, sous les doigts de Nikolaï Louganski, une œuvre qui est donc au programme de votre récital à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Nous allons parler en détail avec vous dans quelques instants de ce programme. Petite curiosité de ma part, quels sont aujourd'hui les compositeurs que vous admirez le plus, ceux que vous avez le plus de plaisir à jouer en concert? Bon, on sait qu'il y a Rachmaninov, bien sûr, mais il y en a d'autres.
Nous sommes très heureux, pianistes. Nous avons vraiment 25 grands compositeurs, grands génies qui composaient pour le piano, composaient sur notre répertoire immense. Et une vie n'est pas suffisante pour jouer tout ce que nous voulons. Je peux dire tous les noms comme Beethoven, Mozart, Schubert, Debussy, Brahms, Grieg, Prokofiev, etc., etc. La public doit faire la vie plus facile pour associer les pianistes avec quelques noms. C'est normal, mais pour moi, je suis chez moi. Si je joue Chopin, ou si je joue Mozart, ou Schubert, ou Brahms, ou Debussy, Franck. Et il n'y a pas beaucoup de musique et je pense, c'est loin de moi, je ne voulais pas jouer. Il y a quelques choses virtuoses comme Brahms Variation sur le thème Paganini. Si je n'ai pas joué ça avant d'avoir 30 ans, peut-être c'est trop tard à jouer. Mais naturellement, je joue Rachmaninov toujours avec grand plaisir. Mais c'est à cause de maîtrise de composer pour l'instrument. C'était Chopin, c'était Rachmaninov, Liszt, peut-être Debussy, peut-être Albéniz qui vraiment a découvert quelque chose pour piano incroyable et qu'ils ont même les grands pianistes. C'est un plaisir spécial de jouer la musique de cet compositeur, mais aussi je joue avec grand plaisir les compositeurs qui n'étaient pas tels grands virtuoses. Comment on peut dire Schubert ou Tchaïkovski?
Nous allons parler maintenant de votre programme du concert du 20 août à la basilique de Rocamadour. Comment l'avez-vous conçu? Quel est son fil conducteur? Quelles sont les œuvres que l'on va y entendre?
Le programme, c'est un programme de musique allemande. Tempête de Beethoven, c'est un des plus populaires sonates de Beethoven. Schumann, c'est la dernière enregistrement que j'ai fait en fin mai. C'est musique de Robert Schumann. J'espère que ça va être prêt, ouvert pour les auditeurs, peut-être octobre, novembre. Et un des sept œuvres que j'ai enregistrées, c'est Carnaval de Vienne, grande musique qui semble comme la musique de fête, mais toujours il y a un très spécial moment de secret et deuxième sens de musique de Schumann. Et deuxième partie, c'est musique d'autres écoles, musique de Wagner et Liszt, deux grands amis. J'adore la musique de Wagner. Il a presque pas écrit pour piano, mais telle passion était tellement forte que j'ai fait quelques enregistrements et quelques transcriptions. Transcription de Crépuscule de Dieu, j'ai joué déjà au Rocamadour il y a 2 ans. C'était première ville où j'ai joué ça. Juste avant mon enregistrement. Et maintenant, je vais jouer les autres pièces, pas seulement mes arrangements, mais aussi arrangements de Louis Brassens. Et je vais finir avec la légende numéro 2, Saint François marchant sur les flots de Franz Liszt. Grande musique. C'est intéressant comment le public va accepter ça.
Pourquoi êtes-vous autant fasciné par la musique et les opéras de Wagner au point que vous aimez la transcrire au piano? Il y a une vraie passion pour vous, là, pour Wagner.
On peut raconter de Wagner beaucoup. Vous écoutez musique, vous êtes fasciné. C'est pas possible de dire pourquoi, parce que il y a immense musique composée, mais parfois c'est génial. Mais si nous avons explication, puis ça va être drôle. Mais chez Wagner, c'est intéressant parce que c'est un seul compositeur qui est devenu génie. Normalement, les génies sont nés comme génie.
Oui.
Et Wagner, non. musique que Wagner a écrite quand il avait 20 ou 25 ans, c'était une musique pas de grand génie. Et c'est une grande énigme pour moi, comment on peut devenir génie. Et pour moi, c'est un seul exemple dans l'histoire, c'est Wagner. Peut-être cette énergie, il n'avait pas grande éducation, mais son éducation de lui-même, il découvrit des choses, il a lu, il a étudié quand il était déjà 30, 35, 40 ans, et avec sa passion et sa confidence, avec ça, il est devenu génie depuis, je peux dire seulement de Tannhäuser, ses premières opères qui, je pense, est l'œuvre de génie.
Dans la seconde partie de votre concert, celle qui est consacrée à Wagner et à Liszt, il me semble qu'il y a un côté très mystique. Est-ce que vous êtes sensible à cet aspect de la musique, de l'œuvre, le mysticisme de ces deux compositeurs?
Oui, mais je pense si nous parlons avec les mots de ça, ben, c'est déjà tout mystique disparu.
Oui.
Oui, naturellement, je pense que l'œuvre la plus mystique et qui sans logique et ratio, c'est Parsifal, peut-être le plus grand opéra de Wagner. Je pense si nous parlons de ça, nous devons être poètes. Je ne suis pas poète,
Moi
je
non
suis
plus.
musicien. Je ne peux pas expliquer, mais c'était peut-être une des plus grandes passions pour moi, écouter quelques scènes de Parsifal de Wagner.
Wagner, je le rappelle, qui était marié avec Cosima, la fille de Franz Liszt, donc il y a vraiment des liens très forts entre ces deux compositeurs. Nous allons justement écouter votre transcription de l'Entrée des Dieux à la scène 4 de l'Or du Rhin, que vous avez réalisé à partir d'un arrangement que nous devons au pianiste belge Louis Brassens.
Thank you.
L'entrée des dieux à la scène 4 de l'Or du Rhin, transcrite et interprétée par Nikolaï Louganski à partir d'un arrangement réalisé par Louis Brassens. C'est un extrait de votre CD Wagner, les scènes d'opéra célèbres, paru en 2024 sous le label Harmonia Mundi. Et c'est une des œuvres que vous allez jouer lors de votre récital à la Basilique Saint-Sauveur. À ce propos, est-ce que vous travaillez déjà à un prochain enregistrement? Est-ce qu'il y a bientôt un CD de Nikolaï Louganski qui va paraître?
Le dernier enregistrement, c'était Schumann.
En mai, oui.
Oui, le début des transcriptions, c'est Louis Brassens, mais deux tiers de ces transcriptions, c'est prolongé de moi-même. Ces transcriptions, c'est intéressant en regard sur musique. Vous êtes pas comme compositeur, non, mais vous allez être à peu près plus proche d'un compositeur et puis vous comprenez que ces process très vivants, vous changez presque chaque fois quelque chose quand vous jouez. Deux des transcriptions, c'est transcription ensemble. Ici, c'est Louis Brassens et moi. Et chez Parsifal, c'est moi et Zoltán Kocsis, un pianiste hongrois. Prochain enregistrement, peut-être je ferai quelque chose de Chopin, mais pas encore décidé.
Plutôt en 2026-2027, une dernière question qui dépasse le simple cadre musical. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre la pratique de la musique et celle des échecs, votre autre passion? Est-ce que vous avez encore le temps de participer à des compétitions consacrées aux échecs?
Non, je pense, je joue aux échecs seulement parce qu'il y a presque aucune liaison entre échecs et musique. Tout est différemment. Et la grande différence, c'est logique en musique existe, mais c'est une petite part de musique. Aux échecs, c'est 95%, c'est logique et ratio, mais encore plus grande différence, c'est aux échecs et en vainqueur où vous pouvez perdre.
Oui.
En musique, je pense tous les participants sont vainqueurs. C'est grande différence. Si vous pensez en musique, vous avez gagné, vous avez perdu, c'est presque toujours en faute. Aux échecs, c'est très clair qui gagnait.
Et vous avez encore le temps de faire des compétitions d'échecs parce que vous aviez gagné en 2002 le premier prix du championnat d'échecs des musiciens à Moscou. Vous continuez à faire des compétitions comme ça?
Non, j'ai déjà longtemps pas joué en compétition. Actuellement, je pense que mes meilleurs résultats, c'est deuxième prix, jamais première. Non, je joue beaucoup de jeux, je joue badminton, ping-pong, mais je pense c'est vraiment pour avoir quelque chose autre de mysticisme et irrationnel de la musique. Je pense que c'est chose complètement différente de musique. Sport et musique, c'est presque opposite.
Mais pour vous, c'est nécessaire à votre équilibre en tant qu'être humain.
J'adore généralement avoir des situations très différentes. Ma vie dans les tours, ma vie chez moi, c'est une vie très
Différente.
différente. Mais aussi, si je suis en musique, si j'écoute musique et si je joue badminton, je check, je suis aussi une personne très différente.
Merci beaucoup, Nikolaï Louganski. Ça a été un immense privilège de pouvoir m'entretenir avec vous. Je rappelle que vous donnez votre récital à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour ce mercredi 20 août à 21 h dans le cadre de la 20e édition du festival. Je crains que la soirée affiche déjà complet, mais au cas où, ceux qui le souhaitent peuvent tenter leur chance en se connectant à la billetterie en ligne à l'adresse www.rocamadourfestival.com. Excellent après-midi à tous à l'écoute des programmes de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupri.